Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. The Dustaphonix sera sur scène à Limoges, à l'espace culturel Jean Gagnon, le 21 janvier prochain. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio à mes côtés aujourd'hui Yvan Serrano. Bonjour.
Bonjour Eve.
Vous êtes membre et fondateur du groupe Dustaphonix. Et à vos côtés, il y a Lise Delac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, vous, de ce groupe. Une des chanteuses, on en parlera tout à l'heure. À mes côtés dans le studio pour vous interviewer et m'accompagner pour cette première partie, il y a Fabrice, notre programmateur musical. Bonjour Fabrice.
Bonjour Eve. Bonjour à toutes et tous.
À 13h30, ce sera l'heure du journal régional sur Bram FM. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'instruction en famille avec Emmanuel, l'invité de Cécile, qui mènera l'interview, vous l'entendrez. Et un projet est actuellement en cours à l'école d'Oradour-sur-Glane pour redonner une histoire au village martyr. Vous l'entendrez à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin. Enfin, à 13h55, la météo de demain sera au rendez-vous, c'est promis. D'ici là, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et vous êtes bien sur Bram FM. Dustaphonix qui sera donc en concert à Limoges le 21 janvier prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui et merci à toi Fabrice d'être à mes côtés aussi. Tu connais bien le groupe et tu connais bien, me semble-t-il, Yvan Serrano.
Un peu, oui.
Alors on l'a dit, le groupe est composé de multiples membres de divers horizons et nous aurons l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui dans le studio, j'ai donc le plaisir de vous accueillir, vous Lise Delac et vous Yvan Serrano, alias DJ Healer Selecta. Vous êtes guitariste et fondateur du groupe en 2008. Racontez-nous la genèse de ce projet.
La genèse. Déjà, merci beaucoup à Fabrice et à vous de nous recevoir à Bram FM. La genèse de Dustaphonix a commencé à Londres en 2008, où j'ai créé le groupe. Je voulais créer, pas vraiment le groupe, mais j'ai créé mon projet musical. Et donc, quand on crée un projet musical, soit on fait tout par ordinateur ou avec des musiciens, et j'ai préféré faire ça avec des musiciens et des musiciennes, et puis voilà, les Dustaphonix.
Et le premier album, Burlesque Queen, coécrit avec l'actrice Tura Satana, moi ça me laisse bouche bée, voit le jour en 2009. C'est donc vraiment très rapidement après la naissance de ce groupe. Alors racontez-nous cette aventure, Yvan Serrano.
Alors j'ai rencontré Tura Satana quand j'étais DJ à Las Vegas. En 97 ou 18, et en fait un jour, à l'époque de MySpace, désolé ça dit l'âge, elle m'a recontacté sur MySpace et voilà, on a décidé de ensemble de faire une chanson qui est sortie sur cet album et de travailler avec Tura Satana qui est quand même une actrice culte des films de Russ Meyer et de la culture des B-movies anglais. C'était un honneur pour moi, petit gars de Tulle, donc c'était génial.
Tu connais Fabrice aussi?
Pardon?
Cette époque cinématographique te parle?
Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Fast Fast Pussycat et compagnie,
etc.
Ensuite, les concerts s'enchaînent dans les lieux cultes à Londres, puis les tournées un peu partout, en Europe et ailleurs. Dustaphonix est fait pour faire danser les gens. Parlez-nous de cette ambiance de club où les danseurs et les danseuses se déchaînent sur le dance floor. Parlez-nous de Londres, Yvan.
Ah, de Londres. Parler de Londres, c'est très, très, très différent parce que c'est une ville, quand même, une superbe ville où j'ai pu devenir, entre guillemets, un homme, je ne sais pas comment expliquer. C'est une ville qui m'a offert des chances que la France ne m'offrait pas, notamment envers la musique, notamment à gagner sa vie en faisant quelque chose avec ce qu'on aime et quelque chose où on peut être bon. Donc voilà, Londres, ça je remercierai toujours cette ville et ce pays pour ça, pour ses opportunités. Londres est une ville magique. De suite, dès que je suis arrivé, on m'a demandé d'être DJ parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Et donc, dans tous les clubs londoniens, à la différence des Français, moi le premier, on n'aimait pas trop danser quand on était gamin, on avait un peu honte. Et là, on pouvait danser sur des musiques qui nous faisaient vibrer, personne ne nous regardait, tout le monde s'en foutait, donc voilà.
Et donc, vous avez quitté Tulle pour aller à Londres. Vous avez quand même eu un détour avant.
J'ai quitté Tulle pour aller à Limoges. Et à Limoges, j'ai créé des associations. J'ai organisé beaucoup de concerts à ce qui s'appelait à l'époque l'Auditorium, qui est après devenu le Centre culturel John Lennon. Et j'ai rencontré ma compagne. Et par l'intermédiaire, j'avais créé un groupe aussi à Limoges, et on a joué en première partie de Digdale lorsqu'il a sorti Pulp Fiction. Donc on a été joué à Londres au Forum, une salle de 5000 personnes, et on a fait 3 concerts. Et donc voilà, et donc on a décidé de bouger. Je suis parti aux États-Unis, et ma femme est partie à Montréal, et quand on est revenu, elle est revenue de Montréal, et moi de New York. J'ai fait, bon, je m'en vais habiter à New York. Elle m'a dit, ben moi je m'en vais habiter à Montréal, et on a fini à Londres. Donc voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes de retour dans le coin, on en reparlera dans quelques instants. Yvan, l'univers des bars vous parle particulièrement. Vous avez grandi avec des parents qui tenaient un bar ici à Tulle.
Alors l'univers des bars, oui, l'univers de ces bars de ces époques-là, des bars de quartier. J'ai grandi dans le bar Suyacois. Peut-être certains tullistes ou des gens de la région se rappellent de ce bar dans le quartier de Suyac, tenu par mon père Steph Serrano et ma mère Lydie. Et j'ai grandi de l'âge de 9 ans à 16 ans. Avec tous les clients de ce bar qui venaient de tout horizon social, politique, il y avait tout le monde qui venait là-bas, et pour grandir dans un bar, on grandit très très vite en fait, on se rend compte de ce que va être la vraie vie. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a amené à aussi ce côté peut-être pas festif, mais d'avoir quelque chose à faire avec des gens, à être ensemble et créer des ambiances pour qu'on soit tous heureux, parce que la vie elle est courte et que voilà, il faut qu'on passe un bon moment avant qu'on s'en aille.
Mmh. Et vous, Lise Delac, quelle relation vous avez avec cet univers festif, parce qu'on a dit vous êtes plutôt du côté de Limoges, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous êtes originaire du coin. Je ne pense pas que vous ayez fréquenté le bar des parents de Yvan.
Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le fréquenter. Moi, je viens de Limoges, ouais. Mais alors après, cet univers festif, je connais de loin, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à faire des concerts, je faisais de la musique folk. Plutôt ouais, folk, ensuite un peu blues. J'ai découvert Bob Dylan en fait quand j'avais une vingtaine d'années, et là ça a été très très important pour moi. Et donc je faisais de la guitare, je faisais des concerts toute seule comme Dylan, guitare, voix, et puis j'ai appris quelques techniques et tout ça. C'est vraiment ce qui m'a porté ces dernières années la musique populaire américaine. On a fait un projet autour de ça à 4 où j'avais pu faire des compos et tout ça, et puis ça s'est un petit peu mis en stand-by. Là maintenant je continue à faire cette musique là en duo avec Anthony Picard, qui vient de Tulle aussi.
Qui on dit bonjour peut-être.
À qui on dit bonjour, évidemment. C'est un projet qui s'appelle Journal Society. On est en duo, on fait des reprises de ces musiques-là, folk, blues. Donc moi, je viens d'un univers vraiment beaucoup plus calme. Et là, je débarque. J'ai rencontré Yvan, et là, je débarque dans un univers effectivement très festif et tout ça. Mais c'est hyper fun, c'est une super expérience, je trouve, en ce qui me concerne.
Quand on dit festif, il y a plusieurs définitions à festif. Festif, là, ça veut dire que voilà, on aime cette musique, on fait danser les gens, voilà. C'est pas les cotillons et voilà, c'est pas voilà, festif, c'est pas festif à Patrick Sébastien, ouais. C'est un autre festif, voilà.
Bien connu ici dans le coin aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire partager votre musique festive et nous ambiancer un peu ? Vous êtes venu avec ta guitare, toi Yvan, et puis évidemment Lise, tu as ta voix avec toi, c'est pratique. Ouais. Alors, on va s'installer dans le studio et on va vous écouter et vos propres compositions.
Oui, la plupart des morceaux, la plupart du set des Death Symphonics, c'est 90% de morceaux originaux. Ce morceau s'appelle Rockin' Boogaloo. En fait, c'est l'histoire justement d'une jeune fille qui va dans un club, et dans ce club-là, il passe pas de musique moderne, il passe pas de hip-hop, il passe pas de French Touch, il passe que des vieux trucs, des vieux sons pourris, et il y a une ambiance formidable, tout le monde danse, tout le monde sourit, tout le monde se sent bien, et ça s'appelle Rockin' Boogaloo. Rockin' Boogaloo,
ticket on spinning treasure. What did she? A shiggling boxer and the chicken. Mama feels good, don't need no doctor. Papa or mama serving bird. Oh did she? Now we're seeing a hey. Imaginez qu'en concert, à ce moment-là de la chanson, on invite tout le monde à participer avec nous pour taper des mains, pour une petite session de clapping, genre flamenco style. On essaie. Yeah. Hey, clap.
De Staphonix en direct ici sur Bram FM. Oui, nous sommes dans le studio ici à Tulle, on dirait pas. La salle est en plein folie de délire. Fabrice transpire, tout va bien.
Descends de la table, Fabrice.
Descends de la table, Fabrice, redescend. Merci beaucoup pour ce beau titre, ça, ça met en jambe, même si on n'a pas beaucoup la place ici pour bouger. Donc on est ensemble ici sur Bram FM, je le redis, je suis avec vous, Yvan Serrano, et vous, Lise Delac. Vous êtes chanteuse, et vous, Yvan Serrano, alias DJ Healer Selecta, vous êtes guitariste et fondateur du groupe The De Staphonix, qui sera donc en concert le 21 janvier prochain à Limoges. Avant, vous serez à Bordeaux, me semble-t-il, on peut l'annoncer quand même.
On joue vendredi à Bordeaux, c'est un concert privé pour les membres adhérents à l'association Relâche, Allez les filles, qui organise tous les concerts gratuits sur Bordeaux. Et on a déjà joué, c'est samedi, samedi, voilà. Et donc on a déjà joué pas mal de fois là-bas, sur la place des Quinconces et tout ça. Et là, Francis, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, quand j'étais gamin. Il m'avait programmé avec les Blue Devils au Jimmy. Et là, quand je dis, ah, on a une nouvelle formation avec 100% Limougeaux. Mmh. Donc voilà, on fait un petit concert clin d'œil là-bas, samedi.
Alors justement, en parlant de cette formation 100% Limougeaux, on va y revenir. Racontez-nous, parce que... tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, vous avez parlé, Yvan Serrano, d'une pizza. Alors, voilà, là, tout le monde ne comprend pas forcément, mais l'idée, c'est que vous avez une base et qu'après, les ingrédients changent en fonction de l'endroit où vous êtes et de ce que vous voulez faire, c'est ça ?
Non, en fait, comment j'ai créé... donc, j'ai joué dans beaucoup de groupes, j'ai fait partie de pas mal de groupes, et souvent, les groupes, on passe beaucoup de temps, on met beaucoup d'argent, et ça finit toujours quelque part à la poubelle, entre guillemets, les groupes split, parce que le chanteur, il veut... faire avocat, il a eu sa licence de l'un, où il y a des problèmes d'ego, donc ça finit toujours comme ça. Et je voulais plus faire de groupe parce que c'est du temps perdu souvent. Et quand j'ai dit, voilà, si je refais mon groupe, je vais le faire à ma sauce, donc la sauce pizza. Et je me suis dit, voilà, je vais faire, comme vous dites, Eve, une pizza, et en fonction des saisons, en fonction des produits qui sont disponibles pendant la saison. Voilà, donc en fonction...
Du bio.
Oui, et puis en fonction de la disponibilité des gens avec qui je demande à collaborer. Certains peuvent collaborer pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, d'autres pendant 6 mois. Donc voilà, ça fait partie des choses de la vie. Et en tant que leader d'un groupe, je ne peux pas demander à quelqu'un de consacrer sa vie à ce projet-là. Donc j'ai trouvé cette idée-là pour que ça puisse continuer à vivre, mais avec des éléments différents et de qualité à chaque fois.
Alors, parlez-nous de cette formation 100% Limoges Aude.
Alors, j'en suis très, très fier, parce que dans les deux Staphonics, j'ai beaucoup travaillé avec les Jamaïcaines, les Américaines, les Anglaises, les Espagnoles et tout ça. Et je suis revenu m'installer à Limoges juste avant le confinement, juste après le Brexit. et donc, je suis très, très, très content d'être revenu ici en Limousin. Et de suite, j'ai rencontré Ludovic Nagy, qui est un batteur, je trouve, extraordinaire, et avec qui on a passé le confinement à répéter, mais pendant 10 heures. C'est même plus des répétitions, en fait. On joue ensemble, on se fait plaisir. Et... un jour, ma compagne, certainement la patronne des deux Staphonics, Christelle Deschamps, plus connue sous le nom de Kinou à Limoges, me dit, dis donc, j'ai vu cette vidéo de cette fille-là sur YouTube.
C'est plus MySpace, hein, c'est passé à YouTube.
Non, on est passé à YouTube. Et donc, on a pris contact, j'ai pris contact avec Lise, on s'est rencontrés. Élise a pris le challenge parce que c'est pas évident d'être chanteuse des Staphonics parce que l'attention est concentrée sur vous. C'est des morceaux qui sont simples mais qui sont très très durs pour une performance live. Élise a pris le challenge et honnêtement, pas étonnant parce que je savais qu'elle pouvait le faire, mais à ma plus grande joie, humainement, artistiquement, tout fonctionne et ça c'est génial aussi. Elle a déjà ses propres projets, elle est déjà quelqu'un dans ce milieu, elle a pas besoin de moi pour et moi j'ai pas besoin d'elle, mais ensemble, voilà, on peut faire. Et puis avec Ludo, et puis Flo, et puis Dan, le bassiste anglais avec qui je joue depuis 10 ans.
Toujours.
Donc voilà, donc c'est un plaisir. Merci Lise,
Suis très, très, très fière. Merci à toi, Yvan.
Et le premier concert qu'elle a fait, sans aucune note sur scène, je tiens à te féliciter, bravo. Oh, j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres.
Donc on aura l'occasion de vous voir tous les deux sur scène, on l'a dit, le 21 janvier prochain. Quelles sont vos actualités? Parce qu'il me semble que vous avez plusieurs projets en parallèle, toi Yvan avec DJ Hiller Selecta. Peut-être Lise aussi, tu as d'autres projets en parallèle. Alors quelles sont vos actualités musicales un peu à tous les deux?
Ben, je vais donner la parole à Lise peut-être.
Là pour l'instant, comme je parlais tout à l'heure du duo avec Anthony Picard, donc en parlant des projets en dehors des deux Staphonics, là pour l'instant en fait on fait que des reprises de musique folk blues et tout ça. On aimerait dans l'idée courant 2023 ajouter peut-être des compositions, donc on est en train de travailler là-dessus. On va essayer de s'organiser quelques petites résidences et tout ça pour profiter de les idées créatives que peuvent nous offrir la musique folk, la musique populaire américaine. Donc je vais essayer de faire ça aussi en parallèle des deux Staphonics cette année.
Et vous Yvan?
Moi, je trouve génial que Lise puisse faire ça parce que dans un sens, c'est deux projets complètement différents. Ah, et oui. Quand Lise est avec les deux Staphonics, c'est pas Lise de Lac, c'est Lise de Staphonics. Donc, et c'est ça la force de ce groupe, c'est ça la force de cette musique qu'on a créée avec The Staphonics, c'est que peu importe qui va chanter ou qui va jouer, ça donne toujours le même résultat de la fin. Mes projets, je veux me concentrer vraiment sur The Staphonics là, 2023-2024, avec des nouvelles compositions, des nouveaux albums. On vient d'être contacté, ça a été confirmé ce matin, un des morceaux que j'ai écrit à Limoges il y a très très longtemps, Shaman Twang, qui sort sur une compilation aux États-Unis et au Mexique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais faire un nouvel album. Et aussi DJ Le Selecta, ça, c'est mon côté collectionneur de disques depuis très, très, très longtemps. Et ça fait 25 ans, presque 30 ans, ça fera 30 ans très, très bientôt de carrière de DJ. Et un plaisir de passer des vieux disques qui craquent.
Et des bons disques qui vont bien.
Des gens de tout âge et de... Voilà, qui apprécie être ensemble. Et voilà, ça c'est mon but. Hill Up Selecta, c'est les Jamaïcaines qui m'ont donné ce nom de DJ à Londres. Hill Up, parce que je passais que de la vieille musique, pas d'électro. Et les Jamaïcains m'appelaient Selecta parce que c'est le DJ. Donc voilà, Hill Up Selecta.
Et une question avec, il y a aussi des Dustamont.
Ah, il y a les Dustamont que tu nous avais interviewé aussi. Hein. Alors les Dustamont, c'est un peu plus compliqué parce que... voilà, c'est plus du jazz, du soul jazz. Alors c'est un super projet aussi avec Benoît et Ludo. Ouais. Et faut que je prenne la décision de me concentrer sur un seul truc. Et ça fait beaucoup. On avait fait Dustamont justement parce que c'était le confinement, c'était difficile de faire venir les chanteuses. de Londres. On n'avait pas forcément encore rencontré Lise, et c'était un plaisir de pouvoir faire ça avec des gens comme Benoît et Ludo, et c'est quelque chose qui pourra se refaire, mais ça demande un petit peu plus de travail. Moi, ils viennent du milieu jazz, et moi je viens du milieu punk rock. Donc c'est deux univers un peu différents et deux façons de travailler différentes, mais sinon, oui.
D'accord, ok. Parce que oui, on t'avait vu à l'été Ruffo, à Ruffo oui. Hein, avec les deux styles, puis après t'avais mixé.
Possible, oui. Oui. C'était une bonne soirée. Oui, ça,
très bonne soirée.
C'est dommage que ça se fasse. Oui.
Alors, peut-être
bonjour avant... à Alban, d'ailleurs. Pardon.
Ah, oui. Je sens tout à fait, il ne faut pas l'oublier. Oui. Tout à fait.
Avant que l'on se quitte, est-ce que vous voulez bien rejouer un morceau en live? Oh, les gros yeux. Non, allez, c'était pas du tout prévu comme ça.
Allez.
Non, oui. Je vous prends vraiment de court si c'est pas possible, il n'y a pas de souci.
Lise, tu choisis la chanson.
Je choisis la chanson, je ne sais pas, peut-être un petit bout.
Un petit bout de chanson.
Un petit bout de chanson.
Un petit bout de chanson.
T'en penses, ils vont peut-être When You Gonna Learn, à moins qu'une autre idée.
When You Gonna Learn, c'est une chanson que j'ai écrite avec Aina, la première chanteuse de Dustaphonics. Elle parle de... Et je devais être comme ça aussi, quelque part, hein, comme beaucoup de gens. Alors, on se plaint tout le temps, là. Et When You Gonna Learn, en fait, t'as tous les éléments avec toi. Il suffit juste de les mettre dans le bon ordre pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et donc, ça s'appelle When You Gonna Learn.
Turn up the radio, I've got something to say. If you don't wanna hear it, I'm say it anyway. And if you come around here cause I don't like how I play, I don't give a damn cause I'm say it anyway. You take life so easily, and that's cool if you were happy, but you just can't seem to see the way you want things to be. Hey, when you gonna learn the price is what you earn? Shouldn't be my concern. Yeah. Oh, you've got some potential, in fact, I think you've got it all. But we could never see that was a box against the wall. I don't wanna see you grow. No, I wanna see you center. You take life so easily, and that's cool. See the way you want things to be. Hey, when you gonna learn the price is what you earn? It shouldn't be my concern. Yeah.
Là c'est pareil, il faut l'imaginer en concert, vous voyez. On invite les gens à participer avec nous, quoi.
Just can't seem to see the way you want things to be. Hey, when you gonna learn the price is what you earn? It should have been my concern. Hey, when you gonna learn the price is what you earn? It should have been my concern. Yeah.
Woo!
C'est Dustaphonics en duo et en live ici dans le studio.
Quatre, c'est
de Bram FM. Pardon ?
Oui, c'est dynamique.
C'est dynamique de toute manière.
Ouais. C'est très dynamique, oui, oui. Redescendre la table. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Yvan Sarano, Elise, Della, qu'est-ce que vous pouvez redonner peut-être les bonnes infos pour réserver pour les billets pour le concert du 21 janvier au soir à Limoges à l'espace Jean Gagnon?
Alors l'espace Jean Gagnon, c'est assez exceptionnel parce que c'est une salle assise et la nouvelle directrice nous a vraiment demandé d'être là-bas, donc on a pris ce challenge aussi. Donc c'est au CCM Jean Gagnon, vous n'avez pas besoin de rentrer dans Limoges, c'est juste à côté du gros Mac à l'entrée
de
Limoges.
En face de la sécu.
Voilà. Et donc pour réserver vos tickets, il faut aller sur le site Allo Hello Asso, H-E-L-L-O. Asso, A2SO, et vous cliquez Hello Asso de Dustaphonics, et là vous pouvez avoir des tickets à réserver à l'avance à 12 euros. Bon, voilà. Il va y avoir aussi une convention du disque à 14h, de 14h à 20h. Et après, nous, on joue vers 20h30, quelque chose comme ça. Il y aura des stands de nourriture, il y a un bar, il y a, voilà. Il y a des super stands de disques avec discothéca, des gens de la région de Tulle, notamment. Mm-hmm. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a une petite actualité à Tulle prochainement dans les...
Les tuyaux.
Dans les tuyaux ou pas du tout?
Alors, non, nous, ça nous ferait plaisir. La dernière, là, j'ai amené même un 45 tours qu'on a enregistré à Tulle, qui est sorti en Espagne. C'était, c'était un petit clin d'œil, qui est disponible d'ailleurs à The Rev, si des gens de la région veulent aller là-bas. L'acheter, c'est un... On avait fait un concert à Tulle et on avait enregistré ça le lendemain dans la salle et qui est sorti sur le label espagnol Family Free. Donc un petit EP. On espère rejouer à Tulle. Donc on va en profiter là pour peut-être passer à la salle des lendemains qui chantent. Et...
C'était un enregistrement avec Aina au chant.
Il réfléchit.
Bonne question. Bonne question.
Bon, vous le voilà piégé.
C'est pas grave.
Il y avait un peu tout le monde sur ce EP. Je crois qu'il y a Aina, il y a aussi. Il y a plusieurs personnes. Ouais. Chaque personne avait re-enregistré. Mais je crois qu'il y avait Aina. Okay. Ouais.
Bon, en tout cas, un immense merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci,
merci à vous.
Merci pour Lise Delac qui.
Et bonjour et vous êtes à bientôt, chanteuse. Les auditeurs.
Ah oui, à très bientôt. En tout
merci
cas, on espère
chez nous,
vous retrouver sur scène très rapidement. On espère que les auditeurs et auditrices seront nombreux à venir acclamer cette scène 100% Limoujaude. Donc le 21 janvier, j'adore dire ça. Le 21 janvier, donc on l'a dit, à l'espace culturel Jean Gagnon à Limoges. Merci infiniment. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission. On parlera d'instruction en famille avec une invitée, Emmanuelle, qui est l'invitée de Cécile. Cécile qui a l'habitude de nous faire des découvertes littérature jeunesse, mais voilà, aujourd'hui elle enfile sa veste de journaliste. On se retrouve donc dans quelques instants. Pour l'heure, il est 13h passé de 30 minutes et c'est l'heure du journal régional.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjoux.
Bonjour à tous. Mercredi 11 janvier 2023, la RD18 en direction d'Aigleton est coupée pour plusieurs semaines. Un éboulement en face du camping Gibanel sur la commune d'Argentat-sur-Dordogne obstrue la chaussée. Fort heureusement, la chute de ce pan de falaise n'a fait aucune victime. C'est environ 300 mètres cubes de roche qu'il va falloir déblayer, voire plus. Des experts se sont rendus sur place hier et un sondage de la falaise va devoir être réalisé avant les opérations de déblaiement. Des déviations sont en place. Macabre découverte par des agents du Conseil départemental de la Corrèze hier. À Beaulieu-sur-Dordogne, sur les berges de la Dordogne, ils ont découvert un corps sans vie. Des analyses sont en cours, mais selon les premières constatations, il pourrait s'agir de la femme de 71 ans disparue depuis le 14 décembre dernier sur le secteur d'Argentat, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres en amont. Un premier foyer de grippe aviaire est confirmé dans le département de la Creuse. Depuis le début du mois, une zone de contrôle temporaire était en place dans l'est du département, mais ce cas est détecté dans le sud-est, sur la commune de Flaya, dans une basse-cour hébergeant des poules, des canards et des dindes. Anne-Laure Lejolif.
Le 29 décembre 2022 était identifié le virus de l'influenza aviaire sur un cygne au nord de Montluçon, sur la commune de Saint-Victor dans l'Allier. La préfète de la Creuse avait alors pris un arrêté pour renforcer la surveillance et la prévention sur 5 communes de Creuse limitrophes de l'Allier. Mais ce 9 janvier 2023, un premier foyer d'influenza aviaire hautement pathogène vient d'être confirmé dans une basse-cour hébergeant des poules, des canards et des dindes sur la commune de Flaya, dans le département de la Creuse. La préfecture a donc établi des périmètres de protection des volailles allant jusqu'à un périmètre de 20 km autour de l'élevage concerné. Dans cette zone, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits. La surveillance est également renforcée par la réalisation d'autocontrôles qui sont rendus obligatoires par arrêté préfectoral. L'éleveur concerné directement par les cas positifs va voir son cheptel dépeuplé, c'est-à-dire abattu, et il touchera une indemnisation. Les conséquences de cette épidémie sont essentiellement économiques, car il est important de rappeler que l'influenza aviaire ne se transmet pas à l'homme. C'était Anne-Laure Lejolif de RPG pour le Graal.
Merci Anne-Laure. Pour éviter la contagion, trois zones sont donc mises en place. Une zone de protection dans un périmètre de 3 km autour de l'élevage, une zone de surveillance qui s'étend à 10 km à la ronde et une zone réglementée dans un périmètre de 20 km. Des communes de la Corrèze sont comprises dans ce dernier périmètre. Mobilisation hier matin d'agents des finances publiques devant le siège de la direction départementale des finances publiques de Tulle. L'intersyndicale CGT FO Solidaire dénonce la dégradation des conditions de travail et le projet de supprimer supprimer des emplois en 2023. Un projet de suppression de 4 postes devrait être acté en septembre. Les syndicats dénoncent la situation et rappellent que les effectifs en Corrèze sont passés de 457 personnes en 2011 à 312 en 2022. Nouvelle régulation des urgences en Dordogne. Jusqu'à demain matin, au moins, il n'y aura pas d'accueil physique aux urgences de l'hôpital de Sarlat. Une fermeture de 24 heures pour faire face au manque d'un médecin. En cas de besoin, il faut donc appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Opération réussie pour Ernesto. L'un des plus célèbres poissons de l'aquarium de Limoges a subi une intervention chirurgicale au niveau des tendons de ses yeux. Sans cette opération, il n'aurait bientôt plus pu s'alimenter. Le poisson dragon d'une douzaine d'années a été opéré par un vétérinaire venu spécialement de Toulouse. Les 1000 euros nécessaires ont été collectés par l'association La Réserve aux Écailles de Limoges qui remercie les donateurs. Ernesto est maintenant en convalescence pour une quinzaine de jours, le temps de la cicatrisation. Daisy Rodriguez ne prendra pas part au match contre Ludwigsburg ce soir, il est également en convalescence. Le Limoges CSP doit se passer de son joueur pour ce match de Basketball Champions League. L'ailier de 26 ans s'est blessé à la cheville droite du deuxième quart-temps face à Bourg-en-Bresse samedi soir. Ce n'est pas très grave, mais il ne prendra pas le risque d'aggraver la situation ce soir. CSP et Ludwigsburg, coup d'envoi à Beaublanc à 20h30. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle journée.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30 sur les ondes de Bram FM. Oui, vous êtes ici au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin, suivie de la météo à 13h55. Pour l'heure, c'est à toi, Cécile, qui m'a rejoint dans le studio. Bonjour.
Bonjour, Eve.
D'enfiler ta tenue de journaliste. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter Emmanuel, qui est avec nous à nos côtés. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et c'est donc toi, Cécile, aujourd'hui, qui va mener l'interview.
Oh, ouais.
Pas de découverte littérature jeunesse.
Non, mais presque, parce que Emmanuel, en gros, je vais te la présenter rapidement. C'est une voisine, on va dire. Elle habite en Corrèze, comme moi. Et puis on s'est rencontrés par le biais de son mari qui est venu réparer mon ordinateur. Voilà. Et en fait, il me disait, comme il a vu que moi je faisais de la BD, il m'a dit, ma femme, elle écrit aussi un peu. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler d'Emmanuel la première fois. Et je dis, ah bon ? Et alors, je me suis intéressée à son écriture. Et j'ai aussi, alors parce qu'il y a quand même un lien avec ma chronique, tu vois. C'est que j'étais d'abord un petit peu les oreilles dressées parce qu'elle écrit. Et c'est des très beaux petits contes. Et je me suis aussi intéressée au fait qu'Emmanuel, elle fait instruction en famille. Parce que,
c'est ça.
En fait, je t'ai dit, tu fais école à la maison. Tu m'as dit, non, c'est pas école à la maison, c'est instruction en famille.
C'est un peu différent.
Ouais, tu peux nous dire un peu en quoi c'est différent et...
Oui. Alors, dans l'instruction en famille, en fait, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a des familles qui reproduisent vraiment l'école chez eux. Et moi, avec mes enfants, on a décidé vraiment ce mode de fonctionnement ensemble, de faire un peu différemment, c'est-à-dire de ne pas particulièrement reproduire l'école chez nous, mais d'essayer de trouver des modes de fonctionnement un peu différents. Et notamment des modes d'apprentissage un peu alternatifs.
Parce que toi, en fait, à la maison, tu as quand même beaucoup d'enfants, en fait. Combien tu as d'enfants ?
J'ai 8 enfants, donc 2 qui sont allés à l'école et qui maintenant poursuivent leurs études, et 6 qui sont à la maison.
Ils ont quel âge ?
Alors, le petit dernier, il n'a pas encore un an, donc lui, il n'est pas concerné par l'instruction en famille. Et les autres, ils ont 3 ans, 5 ans et demi, donc elles auraient l'âge d'aller en maternelle. J'ai une petite fille qui a 8 ans et demi, qui serait en primaire, et 2 garçons un peu plus grands qui ont 11 ans et 13 ans, qui seraient donc au collège.
Et en fait, avec ces enfants-là, à partir de celui qui a 13 ans, en fait, tu as commencé l'instruction en famille. C'est quand il a été en âge d'être, en fait, en gros, d'aller à la maternelle ou au CP, que tu as décidé de dire « je me lance ».
Comment s'est fait cette décision ? Comment s'est pris cette décision ?
Ça a été un long mûrissement, puisque donc mes deux aînés étaient à l'école. Et il y a des choses qui vraiment me questionnaient. Notamment, on en parlait avec Cécile un peu avant, au niveau des notes que chaque élève a à l'école. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Par exemple, quand ils revenaient avec un devoir corrigé, je leur demandais « Bon alors, comment ça s'est passé ? Quel résultat est-ce que tu as eu ?» Et ils me répondaient « J'ai été troisième » ou « Je suis déçue parce que j'étais seulement dixième de ma classe ». À aucun moment... pour eux, l'important, c'était d'avoir acquis une notion ou d'avoir encore une notion à travailler un peu, etc. Ce qui était important, c'était leur place vis-à-vis de leurs camarades. Et ça induisait vraiment un mode de fonctionnement en compétition qui, moi, me paraissait pas extrêmement bénéfique pour leur personnalité. Et je me suis dit qu'à la maison, ce mode de fonctionnement-là, il aurait pu être différent. Et effectivement, avec mes enfants qui sont instruits en famille, eh ben, il n'y a pas de notation.
Et moi, ma question, c'était, mais alors, est-ce que tu as fait une formation ? Est-ce que tu, aujourd'hui, les parents qui ont envie de se lancer dans l'instruction en famille, dans l'instruction à la maison, est-ce qu'ils doivent justifier de diplôme aujourd'hui, alors qu'il est non, tu me disais ?
Alors, jusqu'à l'année dernière, non. On pouvait se lancer comme ça. Mais à partir de la rentrée de septembre, le bac est obligatoire.
Parce que ce que tu... Alors toi, en revanche, tu as une licence...
Moi, j'ai un bac et ensuite, j'ai passé deux licences, oui.
De...
Alors, une licence de lettres et une licence de sciences du langage.
D'accord. Et tu me disais que, en fait, le fait de soi-même avoir suivi des longues ou des grandes études ou d'avoir un bac plus quelque chose, c'est pas forcément... en lien avec une capacité d'être pédagogue et puis au résultat scolaire de son enfant. Tu disais qu'il y avait une enquête, enfin une petite étude faite.
Alors bah déjà ce qu'on peut chacun de nous a un peu expérimenté, c'est qu'on peut avoir un professeur qui est extrêmement compétent dans sa matière. C'est pas pour ça qu'il est un bon pédagogue et qu'il saura transmettre ses connaissances aux élèves. Ça, je crois qu'on l'a tous vécu avec un prof qui était une tête en maths et qui, par contre, n'arrivait pas à faire comprendre des notions à ses élèves. Donc ça n'a pas vraiment de rapport. Et en France, même s'il y a peu d'études encore, puisque le phénomène de l'instruction en famille est très marginal, dans d'autres pays, notamment tous les pays anglo-saxons, il y a énormément d'études qui prouvent que le niveau socio-culturel des parents et leur niveau d'études n'a absolument aucun rapport avec la réussite de leurs enfants dans des études.
Mais tu dis que c'est un peu marginal, et moi je suis quand même allée regarder quelques chiffres rapidement comme ça, et j'ai vu qu'en fait, genre vers 2015, il y avait 24 ou 30 000 enfants qui étaient... inscrits au CNED, enfin qui étaient à la maison, et aujourd'hui il y en a environ 50 à 60 000 enfants
plus,
recensés.
L'année dernière c'était 62 000 et cette année avec la nouvelle loi il y en a
COVID,
un peu moins.
Un peu, mais finalement il y en a de plus en plus.
Oui, il y en a de plus en plus. Mais je pense que c'est lié aussi à l'état de l'école qui malheureusement va un peu moins bien, dans certains départements, dans certaines zones. Et l'effet Covid aussi, je pense, a obligé certains parents à prendre un peu en charge l'éducation, l'instruction de leurs enfants. Et il y en a peut-être qui se sont rendus compte que c'était un mode de fonctionnement qui leur convenait et ils se sont lancés.
Alors Emmanuel, vous parliez justement de cette nouvelle législation qui a été qui est venue durcir un peu, qui faisait partie, me semble-t-il, de la loi séparatisme.
Tout à fait.
Qui est venue durcir un peu l'instruction en famille. Est-ce que vous pouvez nous parler des choses qui ont changé ?
Oui. Alors, quelque chose qui peut handicaper un certain nombre de familles qui jusqu'à présent faisaient l'instruction à leurs enfants avec de très bons résultats, c'est que le bac est obligatoire pour la personne chargée de l'instruction des enfants. Donc en général, c'est un des deux parents. Et la deuxième chose qui alourdit vraiment les démarches, c'est que jusqu'alors, il y avait une simple déclaration à faire à la mairie du domicile et à l'inspection académique. Et maintenant, il y a tout un dossier de demande d'autorisation qui peut bien sûr nous être refusé.
On parlait des compétences un petit peu. Moi, je reviens concrètement. Moi, je reviens sur tes enfants, les petits.
Oui.
Quand je te demandais, il y a des choses. Par exemple, toi, tu sais pas très bien faire. Tu m'as dit que tu commandais. Ça peut t'arriver de commander des petits kits
en science, par exemple.
Ouais. Et puis tu m'as dit que vous alliez. Il y avait un couple d'anglais pas très loin de chez toi et que c'était arrivé que tu emmènes tes enfants. Enfin. Que vous vous rencontriez pour parler...
On se rencontrait au café associatif du village, oui, tout à fait, pour parler en anglais.
Parce qu'en fait, l'instruction en famille, ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés dans leur maison.
Non, c'est vrai.
Et puis, ils ne voient personne.
Il faudrait même trouver un autre terme qu'instruction en famille. Ce serait, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver, mais c'est instruction dans le monde, en fait. Et c'est je crois même que c'est la principale raison qui nous a fait choisir ce mode d'instruction. C'est que les enfants à l'école, mine de rien, ils sont un peu excentrés de la société. C'est une société tout à fait artificielle. résidentiel où ils sont 8 heures par jour avec des enfants uniquement de leur même âge et la plupart du temps de leur quartier. C'est pas du tout la vraie
alors
vie.
Alors que toi, tu peux les emmener au café associatif.
Voilà.
Et puis, on
emmène la voiture chez le garagiste. Ils viennent avec les enfants, ils discutent avec le garagiste.
C'est l'occasion
ils
de
regardent comment ça
peu.
Se passe. Ah ouais. On a des éleveurs dans notre village, juste dans notre hameau. Et ben, un après-midi, de temps en temps, ils vont passer l'après-midi avec eux, s'occuper
des
vaches, etc.
Je sais qu'ils connaissent même un auteur de bande dessinée. Bah, une fois, elle est venue faire un petit atelier dessin.
C'est ça, la magie de l'instruction en famille.
Mais oui, justement, c'est là où je me suis dit, c'est loin des clichés. Alors après, moi, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, hein, dans ma famille, il y a eu le cas de mon frère et de son épouse qui ont voulu se lancer là-dedans. Et puis, le premier mot qui vient un peu effrayant, c'est on déscolarise les enfants. Alors que pas du tout, en fait. Hein, les enfants ne sont pas déscolarisés.
Non. Peut-être on peut parler de ce pas, justement. Comment est-ce qu'on passe le pas pour celles et ceux qui souhaiteraient aujourd'hui faire l'instruction ailleurs que dans une école?
Eh ben, la première chose, c'est se renseigner sur les règles, puisque maintenant, il y a un cadre quand même qui est assez strict. Et puis, donc, les droits, les devoirs. Et puis après, il faut oser, je pense.
Tu disais, il faut être conscient que tu passes beaucoup de temps, en fait. Hein,
C'est beaucoup d'énergie.
C'est un choix de vie, quand même.
Ah oui, c'est vraiment un projet familial. Nous, on a vraiment construit notre projet de famille sur l'instruction en famille. Puisque ça veut dire qu'effectivement, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nos enfants, même si bien entendu, on fait plein de rencontres à l'extérieur, etc. Mais c'est une énorme implication. Donc il faut éventuellement se former si on a des lacunes, il faut trouver des supports pour présenter à nos enfants, il faut apprendre à connaître vraiment intimement nos enfants, savoir comment ils apprennent, parce que chaque enfant apprend d'une manière différente. Il y en a qui auront besoin de beaucoup manipuler des choses concrètes, d'autres pour lesquels ça va être très facile parce qu'ils entendront quelque chose une fois, ils le retiendront. Voilà, il faut vraiment apprendre à connaître nos enfants connaître nous aussi.
Voilà. Regardeur, parce que j'ai une dernière question. C'est, on parlait d'un système entre guillemets de récompense, parce que tu vois, par exemple, quand j'ai bien travaillé, j'aime bien avoir un petit chamallow, un truc. Tu vois. Mais tes enfants, ils sont pas encore corrompus. En fait, je trouve que c'est bien parce qu'ils sont encore reliés à la satisfaction. Tu me disais, je te disais, mais est-ce que quand ils ont vraiment réussi un truc comme passage compliqué, est-ce que ils choisissent une activité, un loisir, non, en fait, c'est simplement, tu me disais, qu'ils aiment avoir compris. En gros.
Oui, ils aiment avoir compris et le fait d'être avec des frères et sœurs à la fois plus grands et plus petits, ils peuvent se rendre compte que, comme leurs grands frères, ils ont compris cette notion-là et ensuite ils peuvent aider leurs petits frères et sœurs. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais en train de corriger un exercice de maths avec un des enfants et juste à côté de moi, il y avait ma petite fille qui a 5 ans et demi, à laquelle je suis en train d'apprendre à lire et qui du coup m'attendait un peu. Et il y a un autre de mes garçons qui est venu puis qui lui a dit « Bon, on va continuer ensemble puisque moi, je sais lire. » Et il l'a aidé à lire sa phrase. Et pour lui, c'est extrêmement valorisant puisque toutes ces connaissances qu'il accumule, elles vont lui servir à aider les autres. Et ouais. À mon sens, c'est ça la valeur de l'être humain dans la société, c'est de pouvoir aider les autres et rendre le monde meilleur.
Ouais, c'est
et
pas
c'est ce que j'aimerais leur donner.
Mais oui, mais non, mais je...
Alors, dans quelques instants, il y a Isabelle Vedrenne, si elle veut bien, viendra nous faire une découverte d'un titre musical du jour. Mais avant, j'aimerais... Est-ce que vous pouvez, Emmanuel, nous donner des pistes de... Si aujourd'hui, il y a des parents qui souhaitent faire l'instruction en famille, où est-ce que... Est-ce qu'on peut vous contacter, vous, ou est-ce qu'il y a une antenne qu'on peut contacter pour éventuellement pouvoir avoir des renseignements et des informations pour passer à cette étape de choix de vie?
Oui, alors il y a plusieurs associations nationales. Donc en faisant des recherches sur Internet, vous trouvez, il y a l'association LEDA, l'association LAIA et d'autres qui ont des sites Internet avec toutes les démarches, notamment légales à effectuer. Et puis il y a aussi beaucoup de regroupements de parents, de familles locaux, notamment en Corrèze, il y en a autour de toutes les grosses villes. Et avec des sites internet ou des sites Facebook ou des listes de diffusion. Et effectivement, un des conseils que je peux donner, c'est de se rapprocher de ces collectifs locaux avant même de passer le pas, puisqu'il y a des rencontres qui sont régulièrement organisées et on n'est pas sectaire, on accepte aussi les enfants qui vont à l'école et leurs parents. Et à mon avis, c'est un premier pas à faire, prendre la température, poser les questions aux personnes qui le vivent au quotidien.
Oui, surtout casser les idées reçues et les clichés et venir vraiment à la rencontre des personnes qui le vivent au quotidien et permettre d'avoir une réalité et des personnes réelles qui le vivent. Merci infiniment, Cécile, de nous avoir présenté Emmanuel. Merci à vous, Emmanuel, d'avoir été au micro de Bram FM aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir parlé d'un sujet aussi intéressant qui est l'instruction en famille, même si ce terme est certes assez inapproprié. En tout cas, merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et Isabelle nous a rejoint dans le studio.
Bonjour
Isabelle.
Branché. Oui, mon micro est branché, ça va.
Alors
tout
Isabelle,
va bien. Ah, ouais. Alors il s'est décroché, mais alors bon, je vais faire comme en live dans un concert, comme si j'allais chanter, mais je ne vais pas chanter, je vais le tenir. Mais ça, les auditeurs s'en fichent un peu, hein, c'est des histoires de studio, tout ça.
Ils ne voient pas que tu as le micro dans la main et qu'il s'est cassé de la perche.
Alors, tu veux mon titre du jour, c'est bien ça, hein? Parce que je te fais la météo avant, moi, c'est comme tu veux. Hein.
Non, je veux bien le titre du jour et il te reste une minute.
Alors, le titre du jour est un morceau très abondamment repris, à tel point que la version originale en demeure complètement embuée, comme perdue dans des vapeurs de ceux qui l'ont fait transpirer. Et c'est injuste. Il est temps de la réhabiliter, de rendre à César ce qui est à César, expression valable avec tous les prénoms. Il s'agit de Louis Louis, rendu également célèbre par Iggy Pop, les Beatles, les Beach Boys et les Stones, par exemple, parce qu'il y en a plein d'autres, mais qui a été propulsé au top des hits mondiaux dès sa sortie en 1963 par les Kingsmen, groupe de rock originaire de Portland. Cette chanson, d'abord écrite en 1957 par le bluesman Richard Berry et pas l'acteur chelou, est devenue une icône de la culture pop américaine. Elle raconte l'histoire d'un marin qui demande à un barman nommé Louis, une fois, qu'il doit absolument retrouver sa fiancée barrée en Jamaïque. Alors on écoute Louis Louis deux fois, version Kingsmen.
The Kingsmen, ça me fait penser à un film d'ailleurs, je sais pas si tu connais, mais t'as plus de micro.
Si, j'ai un micro, mais ça me contorsionne un petit peu, mais ça va, je suis encore assez souple.
Merci beaucoup pour cette découverte.
Bah, écoute, je t'en prie, alors je te laisse une seconde et puis je reviens dans la seconde aussi.
Allez, à 13h57, tu es de retour pour la météo.
Le temps d'enfiler ma robe, ouais.
À tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine,
le rendez-vous de ce territoire et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Un projet pédagogique pour redonner une histoire à Oradour-sur-Glane, pédagogique et artistique, intitulé « Raconte-moi mon village ». Il vise à faire revivre le village d'avant 1944, alors que des écoliers ont des difficultés à percevoir la vie passée de la communauté viennoise. La réalisation d'un album illustré doit conclure ce projet. Pour cela, la soixantaine d'enfants d'Oradour de CM1 et CM2 ont été accompagnés par un photographe, un auteur jeunesse, une illustratrice et le Centre de la mémoire.
Ils écrivent une histoire qui se passe dans Oradour avant le massacre.
Nathalie Cosette, enseignante CM1, CM2 au sein de l'école d'Oradour.
Pour eux, ils vivent avec les ruines et il n'y a pas eu de vie dans ce village avant. Et ils ne s'imaginaient pas qu'on ait pu y vivre. Donc écrire ça, ça leur a permis de prendre conscience qu'il y avait eu une vie dans ce village avant le massacre et une école. L'album se finit quand les chars arrivent.
Pour entreprendre ce projet, les enfants ont travaillé autour de photographies anciennes, d'objets, de cartes et autres documents présentés et archivés au Centre de la mémoire. Et ils ont visité le village martyr, la directrice du Centre de la mémoire, Babette Robert. Et
ils ont travaillé sur les archives du centre, notamment toutes ces photographies anciennes, c'est-à-dire ces photographies d'Oradour avant le 10 juin 1944. Et c'était très important pour eux, parce que des enfants qui arrivent dans les ruines du village martyr aujourd'hui, voient des ruines qui ne leur disent pas grand-chose ou rien. Et ils ont beaucoup de mal à imaginer que ces murs sont les murs de vraies maisons. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai village auparavant, avec des gens, avec des sons, des couleurs, des odeurs, la vie. Voilà. Et grâce aux photographies anciennes d'Oradour, ils ont pu voir ce village avec ses habitants, avec ses activités, ses commerces, et cela a pu nourrir leur imagination d'une vie ici avant. C'est un village vivant sur lequel ils ont travaillé cette année.
Un livre sur le village d'Oradour-sur-Glane qui est détruit.
Mathilde, 10 ans, est élève en CM2. Son groupe est chargé de choisir les illustrations de l'album. Le projet lui a permis de découvrir son village.
C'était une vie pleine de bonheur et de joie. Les gens, c'était comme maintenant, jusqu'à le massacre. Mais en fait, j'avais pas trop pensé avant comment c'était. Je m'étais plutôt posé la question comment les Allemands, ils ont tout détruit.
Mais on leur demande de raconter la vie avant le massacre, la vie d'un bourg, comme dans de nombreux bourgs de notre département, sauf qu'ici, on est à Oradour-sur-Glane.
Et ce projet s'articule autour de différents champs. L'histoire, le patrimoine, l'écriture, l'illustration et la photographie. Un projet pluridisciplinaire pour illustrer l'Oradour d'avant le drame. Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
C'est un travail qui va être utilisé. D'abord, c'est un travail pour les élèves eux-mêmes, de voir que ce qu'ils vont faire, ça va être proposé sous forme d'un album avec des dessins, avec des illustrations, avec un texte, avec une histoire, et qui sera exposé. Plus on s'éloigne du 10 juin 1944, plus on aura besoin de documents de ce type-là pour la mémoire, bien sûr, mais aussi pour interroger, pour interpeller, pour chacun d'entre nous, pour les gens d'ici et les gens qui vont venir de l'extérieur. Donc c'est très important que l'on puisse avoir cette production-là. Donc il est important aujourd'hui de dire qu'effectivement, il y a 70 ans, 80 ans, on vivait également, peut-être de façon différente d'aujourd'hui, et de parler de ça à Oradour, c'est encore plus fort, ça a plus de sens ici.
Ce qu'il faut savoir ici à Oradour, c'est que les vieilles familles, ce qu'on appelle les vieilles familles d'Oradour, représentent à peu près, qui ont été touchées par le drame, 20% de la population.
C'est là l'importance du projet pour Philippe Lacroix, maire d'Oradour-sur-Glane, que les enfants s'approprient l'histoire du village, qu'ils prennent possession de cet héritage et qu'ils puissent acquérir des connaissances historiques et développer leur curiosité.
Donc les enfants, comme d'ailleurs leurs parents, il faut qu'ils s'impliquent dans cette histoire, parce que même s'ils ne sont pas originaires d'Oradour, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ce seront eux qui seront aux responsabilités et qui devront aussi défendre cette mémoire quand nous, on aura disparu.
Cet album illustré sur Oradour avant le drame est le premier tome d'une édition en 2 volumes. Dès la rentrée prochaine, les écoliers travailleront autour du nouveau bourg d'Oradour-sur-Glane pour un 2e tome. Le tout sera édité dans un coffret en 2024. Le travail des enfants d'Oradour sera également présenté lors d'une exposition dans le Centre de la mémoire.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h. Mais pour l'heure, Il n'y a pas de son musical pour annoncer la météo.
Ouais, on trouvait que c'était trop redondant, répétitif. On s'est dit, on va pas mettre de générique aujourd'hui. C'est pas mal, hein,
Je trouve ça très vide et moi, ça me rend hyper triste. Mais bon, c'est une fois dans l'année.
Moi,
demain, j'aurais
retrouvé
un titre musical.
Bon, faut que je fasse la météo, hein, oui. C'est ça, hein, si je comprends bien. Hein. Demain, jeudi 11 janvier, la météo reste sur le même modèle, aqueuse, hein, dirait Fabrice. C'est-à-dire grise et humide, effectivement, avec quelques averses résiduelles qui devraient persister sur une bonne partie de la Corrèze. Elles seront généralement faibles, mais éparses, mais néanmoins présentes tout au long de la journée. Côté température, c'est toujours confortable pour la saison. Le matin, de 5 à 9 degrés du nord au sud du département. Et pour l'après-midi, on attend 7 degrés du côté d'Ussel, Trégnac et Égletons, 9 à Userche, 10 degrés à Tulle, Argentat et Beaulieu, jusqu'à 11 degrés à Brive-la-Gaillarde.
Merci.
Les hivers,
beaucoup.
C'est plus que c'était, hein, ma brave dame.
Ah, c'est plus que c'était. C'est presque à se demander si on peut encore manger un bon cassoulet au coin d'un feu, si ça va pas trop nous réchauffer.
Ah non, ça, je suis encore d'accord, moi.
Allez, bon, cassoulet pour tout le monde ce soir. Merci beaucoup, Miss Météo. À demain.
À demain.
C'est la fin de cette émission. Un grand merci à mes invités du jour, Yvan Serrano, Lise Delac, Cécile Brosseau et Emmanuel. Merci à toi Isabelle et merci à vous auditeurs et auditrices. Pour écouter cette émission et ou la partager, rendez-vous sur notre site internet bramfm.com à partir de 14h30 dans l'onglet Vous êtes ici. Vous retrouverez cette émission avec tous les liens utiles et aussi les titres musicaux qu'on passe dans l'émission, bref un peu tout. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si vous voulez venir parler d'un événement, d'une association, de votre entreprise ou que sais-je, n'hésitez pas à contacter Bram FM. Nous sommes preneurs, je suis preneuse. La suite du programme sur les ondes à 14h, c'est l'émission scientifique Le Labo des Savoirs. À 16h, ce sera Pili. À 17h30, Cinérama. À 18h05, Oldies but Goldies. Et ce sera Soft avec Fleetwood Mac. Et enfin, à 21h, ce sera La Vaina sur Bram FM. Moi, je vous retrouve demain à 13h avec Coralie, qui travaille à la librairie Chantepage, mais aussi qui possède la super entreprise Trésor Ludique. Et puis, il y aura aussi Valérie de la librairie Préférence. Il est 13h passé de 59 minutes, il est bientôt 14h. Vous êtes ici sur Bram FM et je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de notre antenne.